Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, devrions-nous réserver aux publicités sur les VUS et les pick-up le même sort que celles sur les cigarettes, c'est-à-dire les encadrer, les limiter, voire les interdire? Le péquiste Sylvain Gaudreau le souhaite, lui, et même s'il vient d'une région où nombre de ses commettants se promènent en gros véhicules, il proposera très bientôt d'introduire cette mesure dans le projet de loi 102 qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, et c'est une loi qui vise à renforcer l'application des lois en matière d'environnement. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit.
Mais bonjour Geneviève Lajoie.
Bonjour Antoine.
Geneviève remplace encore cette semaine Rémi Nadeau. Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Geneviève, j'adore quand tu nous sors ton petit côté forestier parce qu'il y a du nouveau sur le front de la gestion des caribous et tu viens de mettre un texte en ligne à ce sujet.
Effectivement, hein, faut pas croire. Les correspondants parlementaires, ils traitent de tous les sujets. Alors aujourd'hui,
c'est la beauté de ce métier-là, hein.
Oui, exactement. Tous les jours sont très différents. Alors, caribous de Charlevoix et de la Gaspésie qui seront donc mis en captivité dès cet hiver.
C'est fascinant. On n'arrive pas à les protéger dans le fond.
Exactement. Et donc, on est obligé de les mettre en captivité. Alors ce matin. J'avais été invitée à un petit briefing technique de la part du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs. Écoutez, ça a duré 1h30. Sérieusement, c'était très long pour nous faire dire finalement que comme prévu, les caribous de Charlevoix vont être mis en captivité cet hiver. Ils ont construit un enclos de 20 hectares dans le parc des Grands Jardins. Okay. Pour les 17 bêtes restantes du cheptel de Charlevoix, hein, c'est peu. Hein, il ne reste 17. Que 17 bêtes. Oui.
Oh, c'est triste.
Non. C'est très triste. On a parlé aussi de la harde de caribou de la Gaspésie. Ils sont un petit peu plus nombreux, autour de 34. Dans ce cas-ci, pour ce qui est de la Gaspésie, intéressant, ils font des enclos. Mais ce ne sont que les femelles gestantes qui vont être mises en enclos pendant le printemps et qui seront relâchées avec leurs petits à la fin de l'été.
Donc, mais là, ils vont se nourrir où, comment? Ils ne seront plus dans un milieu naturel? Est-ce qu'ils vont devenir des bêtes de cirque ou de jardin zoologique?
Ben c'est ça. C'est ça qu'on a appris. En tout cas, moi, c'est ce que je cherchais à savoir un peu, je t'avoue, franchement, auprès des fonctionnaires. Est-ce qu'ils continuent de se nourrir de lichen comme à l'habitude? Eh bien, en fait, ce qu'on comprend, c'est que les bêtes, ils vont se nourrir dans des mangeoires, notamment. Oui, c'est ça. Donc, le fait qu'ils se nourrissent dans les mangeoires, bien, évidemment, ça pourrait leur faire perdre graduellement leurs instincts. Là. On ne se le cachera pas. Quand tu ne dois plus souffrir pour te nourrir et combattre les prédateurs et te cacher des prédateurs parce que tu n'en as plus du tout dans cet enclos-là, évidemment, les réflexes naturels de survie, tout ça, disparaît tranquillement. Et les fonctionnaires, la biologiste qui était là disait, ben, écoutez, je ne peux pas vous donner de délai. Là. On ne sait pas combien de temps ça prend avant qu'un animal sauvage comme le caribou forestier perde ses instincts. Mais évidemment, plus longtemps il restera en enclos et plus il perdra ses instincts. Après ça, est-ce que c'est possible de relâcher des bêtes qui vont être restées pendant des années dans un enclos? C'est à voir parce que là, pour le moment, c'est pas prêt de se régler parce que je vous rappelle que le ministre de la Forêt, Faune et Parcs, Pierre Dufour,
qui est parfois qualifié de ministre de l'industrie forestière.
Ben exactement. Quand tu portes les deux chapeaux, c'est pas facile. Il a repoussé le dépôt de son plan pour assurer la survie du caribou forestier.
Encore?
Il avait annoncé ça à l'automne. Il a plutôt nommé une commission indépendante, mais composée uniquement de spécialistes de l'économie forestière pour lui faire des recommandations. Donc, à quand on va relâcher ces bêtes-là ensuite? On verra, mais ce n'est pas pour demain et on verra les conséquences de tout ça éventuellement.
Exactement. Aïe, 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 pauvre bête. On avait un sondage ce matin et ça a fait réagir la classe politique. Un sondage important qui démontre, là, je le répéterai pas, ça a été beaucoup dit à notre antenne, une baisse pour la CAQ, une montée du Parti conservateur. Et justement, tu veux nous parler du Parti conservateur?
Oui, Claire Samson, qui faisait un point de presse, évidemment, accompagné de son chef, Éric Duhaime, ce matin à l'Assemblée nationale. Peut-être petit fait intéressant. Madame Casabas n'aurait pas pu venir aujourd'hui, sinon elle aurait dû révéler son statut vaccinal puisque le passeport vaccinal est demandé à l'Assemblée nationale et requis pour entrer à l'Assemblée nationale, pour les visiteurs en tout cas, et donc pas pour les élus, mais pour tous les gens qui travaillent ou qui œuvrent à l'Assemblée nationale, le passeport vaccinal est requis. Donc, elle nous aurait révélé à ce moment-là qu'elle était doublement vaccinée. En tout cas, donc, elle ne pourra pas venir d'ici les élections à l'Assemblée nationale.
C'est bon.
À moins, évidemment, de nous révéler si elle est vaccinée ou pas, ce qu'elle refuse de faire pour le moment. Donc,
on a comme l'impression qu'elle est un peu comme Novak Djokovic.
Oui, oui. Mais en tout cas, M. Duhaime, lui, l'est double vacciné et il peut donc se promener dans les corridors de l'Assemblée nationale. Et il est venu ce matin nous dire qu'il fallait un retour à la normale, complètement à la normale. Il fallait que le gouvernement Legault lève les mesures. Là, il est temps. Les Québécois en ont soupé des mesures sanitaires. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que les sondages, hein, c'est toujours drôle la façon dont les politiciens réagissent. Hein, quand tu demandes, quand ça va pas bien dans les sondages, les gens, je réagis pas aux sondages. Je gouverne pas en fonction des sondages.
Ouais, ouais.
Monsieur Duhaime est pas étranger à cette stratégie-là. Là. Alors ce matin, hein, pour dire que les gens en avaient soupé des mesures sanitaires, ben là, il brandit les sondages. Mais après ça, quand il est temps de commenter le fait qu'une partie du sondage précise que les Québécois sont très en faveur d'une contribution santé pour les non-vaccinés, ah ben là, il commente pas les sondages, puis il se gouverne pas en fonction des sondages.
Alors, c'est ça.
Un vrai politicien, quoi.
Oui, des fois, les politiciens nous disent « ben c'est pas ce que je sens sur le terrain » quand ça fait pas leur affaire, les sondages.
Ouais, ben ça dépend où ils vont.
Parle-nous maintenant de Moncef Déragy. Tu avais un intéressant papier ce matin, Geneviève. Tu disais que Moncef Déragy, le nouveau porte-parole en matière de santé du Parti libéral, lui, il acceptait d'aller dans certaines stations de radio qui luttent finalement contre les mesures sanitaires.
Oui, Moncef Déragy qui a tout récemment été nommé porte-parole libéral en matière de santé par sa chef Dominique Anglade. Puis, c'est ça, je l'ai questionné justement sur le fait qu'il avait été, lorsqu'il était porte-parole en matière d'économie, il était allé à quelques reprises à Radio X faire des entrevues et même le gouvernement lui avait reproché ça à une certaine époque. Notamment Marie-Ève Proulx, c'est ça, lui avait reproché d'être allé sur les ondes de Radio X. Alors, je lui ai demandé s'il allait continuer comme porte-parole en santé à aller aussi parler sur les ondes de radio qui, en tout cas, qui sont connues pour des coups de gueule contre les mesures sanitaires, disons ça comme ça. Et puis, il m'a dit oui, selon lui, lui qui est en train de finaliser un doctorat en santé publique, justement, ce sujet-là, on doit parler à tout le monde, à toute la population. Et c'est sûr que si tu veux convaincre des non-vaccinés, il y en a peut-être dans les électeurs de choix Radio X, eh bien, il faut que tu ailles sur ces ondes radio-là. Là. Donc,
c'est une position qui se défend. Hein? C'est la position, au fond, de la confiance en la liberté d'expression.
Tout à fait, c'est intéressant. Et puis, parce que je te rappelle que Radio X est boycotté en ce moment par bon nombre de politiciens. Les ministres de la CAQ n'y vont plus depuis des mois. Puis on se rappelle aussi Régis Labombe, l'ancien maire de Québec,
oui,
qui avait complètement boycotté Radio X et même il avait retiré toutes les publicités de la ville de la station. Donc tu sais,
le nouveau maire Marchand justement a renversé comme décision. Là, maintenant, il y a de la pub de la ville à l'antenne de Radio X.
Exactement. Et puis bon, j'étais curieuse de savoir là, moi, ce que Catherine Dorion
la Québec solidaire.
Solidaire et artiste, oui, pensait justement de ça parce que elle a eu quelques démêlés quand même avec certains animateurs de Radio X par le passé, il faut le dire, là.
Oui.
Mais je lui ai demandé donc, en tout cas, j'ai pas réussi à lui parler. Elle était trop occupée aujourd'hui. Mais bon, on m'a envoyé une réaction justement à ce texte-là de la part de Catherine Dorion. Puis elle dit qu'elle voit pas de problème là, à aller faire la promotion de la vaccination puis des mesures sanitaires sur les ondes de n'importe quelle radio. Mm-hmm. Mais là où elle voit un problème, c'est quand, par exemple, les pouvoirs publics, comme le CRTC, laissent des animateurs proférer sans conséquence. Et là, je la cite, n'importe quelle fausseté, que ce soit sur la pandémie, sur la crise climatique, tout ça, alors que ça va contre les guides de déontologie du milieu et que ça nuit directement à la liberté d'expression. Donc, voilà la réaction de Catherine Dorion. Mais elle a dit qu'elle accepterait, donc elle accepte les invitations. Quand elle sent que l'entrevue va se faire sur la base de la bonne foi, puis que les animateurs respectent les guides de déontologie du métier. Alors voici, voilà la position de Catherine Dorion. Mais en tout cas, c'est intéressant, oui. Mon chef réagit sa position. Et puis on verra si justement ça incitera Radio X à l'inviter souvent sur ses ondes. Monsieur Déragy qui dit que justement il faut aller sur ces oui. dans ces radios là pour parler de la vaccination, pas dire qu'on est d'accord avec ce que les animateurs disent ou peuvent dire, mais qu'il faut le faire. Puis c'est le devoir du gouvernement aussi de le faire, parce que si on ne le fait pas, ben c'est comme s'il n'y a toujours qu'un seul message dans ces médias-là.
Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. On se reparle demain.
Merci.
Je rappelle que Geneviève est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Les travaux parlementaires vont reprendre le 1er février, dit-on constamment, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a actuellement des commissions parlementaires. Il y en a une sur le projet de loi 102 sur l'environnement. Et pour en discuter, j'ai au bout du fil Sylvain Gaudreau, député de Jonquière. Bonjour.
Oui, bonjour Antoine. Il n'est pas trop tard pour se souhaiter bonne et heureuse année.
Ah oui, il commence à être tard un peu, mais merci.
Bah, moi, je me donne jusqu'au 31 janvier.
OK. Vous aussi.
On a besoin de base cette année de se souhaiter bonne année.
Et mon Dieu, oui. Quand je pense qu'on s'est souhaité bonne année en fin 2019, début 2020. Ouf!
Ouais.
C'est pas une garantie. Mais tout ça pour dire que, parlons d'environnement, Sylvain Gaudreau, vous voulez déposer un amendement pour limiter la publicité des VUS et autres véhicules énergivores. C'est vrai que la publicité, et là, je plaide un peu contre ma paroisse, parce que nous, les médias, on a oui. beaucoup de publicité d'auto et de grosses voitures, mais quand même, il faut en discuter. C'est une publicité qui est omniprésente, les pick-up et compagnie.
Oui, tout à fait. Et d'autres pays ont déjà agi hein, en ce sens. Je pense à la France, entre autres, là, qui a des normes et une réglementation sur la publicité. Il faut savoir, Antoine, qu'entre 1990 et 2018, le nombre de VUS, les camionnettes, les fourgonnettes, dans le parc automobile du Québec, ça a augmenté, figure-toi, de 306%. C'est clair que la publicité a un rôle à jouer. On ne peut pas dire que c'est le seul critère, mais si ça n'avait pas d'importance, probablement que les fabricants ne mettraient pas de pub, mais ouais. ils mettent des millions là-dedans. Et en plus,
même un sympathisant de Québec solidaire comme Dan Bigra fait la narration des pubs d'une de ces compagnies-là et d'un de ces gros cylindrés.
L'autre élément que je remarque, moi, c'est aussi des publicités où on voit, par exemple, des camionnettes traverser des cours d'eau, oui. monter des montagnes.
Oui, monter des pentes de ski.
Monter des pentes de ski, comme si on faisait ça quotidiennement.
Oui.
Traverser un désert, tu sais. Alors, moi, tu sais, je viens d'une région où il y en a beaucoup là, de camionnettes et de SUV, puis je ne fais aucun jugement là, dans le sens que, tu sais, il y a des gens qui en ont vraiment besoin pour le travail, des travailleurs forestiers qui doivent parcourir des dizaines, des centaines même de kilomètres pour aller dans le camp forestier.
C'est ça.
En smart.
Ben oui, vous risquez pas de vous aliéner ces gens-là en mettant de l'avant comme ça un amendement pour limiter la publicité?
Ben la publicité, en fait, tu sais, ça n'empêchera personne de s'acheter une camionnette. Là, c'est juste que c'est un peu comme la cigarette. Le transport est responsable de 43 à 45 des émissions de GES au Québec. Comme je disais tout à l'heure, en quoi 30 ans, on a augmenté de 306 la vente de ce type de véhicule-là. Et de plus en plus, par ailleurs, les véhicules, les plus gros véhicules, se transforment aussi en véhicules électriques. On sait qu'il y a déjà des modèles, par exemple, de Ford F-150 électriques qui s'en viennent.
Ben oui.
Alors, l'idée, si, par exemple, le gouvernement nous dit, bon, ben, à partir de 2035, il n'y aura plus sur le marché de véhicules à essence, nous, on va proposer aussi dans le projet de loi 102 de ramener ça à 2030. Ben, tu sais, 2030, c'est 8 ans, là. Puis même la volonté du gouvernement, ben, c'est dans 13 ans, là, en 2035. Donc, c'est très bientôt. Alors, il faut déjà commencer à réduire les publicités. Puis pour les médias, moi, je suis très sensible, évidemment, au financement des médias. Je viens d'une région où je veux absolument maintenir, par exemple, le quotidien, les radios locales, etc. Donc, moi, je suis très sensible à ça, mais il n'y a rien qui va empêcher au contraire, on va souhaiter que les fabricants automobiles prennent des pubs pour les autres véhicules électriques ou hybrides, là.
OK, bien, si l'électrification est comme inévitable, comme plusieurs le disent, pourquoi limiter la publicité?
Ben, parce qu'il va falloir faire cette transition-là, puis il faut la commencer dès maintenant, puis faire comprendre aussi que aux consommateurs que ces véhicules-là, d'ailleurs en France, là, à la fin de chaque publicité, admettons une publicité qui est à la télé ou dans une note, dans une publicité écrite, on mentionne que ce qui est encore mieux, c'est de prendre des transports collectifs. Pardon, le transport actif, donc c'est-à-dire le vélo, ou de marcher dans des distances qui sont plus courtes. Donc, c'est le type de choses qu'on pourrait faire au Québec. Donc, avoir une espèce d'avis à la fin d'une publicité pour dire GM, Ford, peu importe, vous encourage à utiliser le transport collectif, vous encourage à prendre d'autres moyens de transport. Ça peut être aussi une occasion de passer ces messages-là.
OK, c'est limiter ou ajouter un avis?
Dans le cas de ce que j'ai vu en France, il ajoute un avis à la fin de la pub.
OK. Mais vous allez proposer quoi dans le projet de loi 102?
Ben, nous, en fait, de façon très technique, là, selon le projet de loi, nous, ce qu'on va proposer, c'est de donner le pouvoir réglementaire au gouvernement de faire ça, ce qu'il n'y a pas présentement. Alors, nous, on ne va pas dans le détail. Notre amendement, là, il va juste dire, ben, il faut que le gouvernement réglemente ça. Mais là, je sais que la question qui vient, c'est, oui, mais Sylvain, si vous étiez au gouvernement, vous feriez quoi? Bon, ben, justement, c'est le type de mesure qu'on prendrait. Ça serait justement de prévoir à partir de 2023, par exemple, d'interdire les publicités pour les camions ou les camionnettes qui sont juste à combustion. Donc, de permettre des publicités pour les véhicules hybrides rechargeables, électriques, par exemple, et d'emmener une balise pour les publicités, comme empêcher des publicités de camions qui traversent des rivières ou des milieux naturels qui sont sensibles. Ça existe, par exemple, en Nouvelle-Zélande,
ils ont cette
mesure-là. Ouais. Ensuite, d'indiquer la consommation d'essence, le rendement énergétique, un peu comme quand on achète un frigo, il y a une espèce d'étiquette là, sur la porte du frigo. Là. Bon, ben, on pourrait avoir des étiquettes comme ça, ou en tout cas d'une manière ou d'une autre, là, pour indiquer le rendement énergétique du véhicule. Et un autre élément aussi à partir de 2023, c'est celui que je vous disais tout à l'heure, un court message de sensibilisation à la fin de la publicité, ça c'est sur le modèle de la France, pour dire, ben oui, c'est correct là, d'avoir un auto, mais une voiture, par exemple, ou un camion, mais on vous encourage à utiliser le transport collectif et actif quand c'est possible. Alors, nous, c'est ce qu'on propose. Mais l'amendement comme tel, on ne peut pas aller aussi précis que ça dans une loi. Donc, l'amendement que je vais déposer dans les prochaines heures, ce sera pour permettre au gouvernement de faire ça.
Je vais vous poser une colle, Sylvain. Est-ce que ça respecte la liberté d'expression commerciale?
Ben, je veux dire, pour moi, c'est certainement pas pire que d'autres types de publicités, par exemple sur les cigarettes ou même sur les jouets. Vous savez que les publicités sur les jouets sont encadrées. Quand j'étais jeune, il y avait plein de publicités sur les jouets, mais ça a disparu. Donc, nous, on a la...
C'est une cause célèbre, ça, devant la Cour suprême. Irwin Toys.
Oui, exactement. Mm. Alors, moi, je pense que c'est pour une raison de santé publique, de protection de l'environnement, de bien collectif. Puis de toute façon, on n'empêche pas une compagnie de faire de la publicité, c'est juste de l'encadrer correctement.
Est-ce que ça va avoir vraiment un effet si c'est juste un peu encadré?
Ben, c'est-à-dire que d'empêcher, par exemple, des publicités de camions uniquement à essence, moi, je pense que ça va avoir un effet. Aussi, d'empêcher les scènes où on traverse des rivières ou des ruisseaux qui sont des milieux sensibles en environnement, je pense que ça va avoir un effet. Puis je pense qu'en soi, le signal que l'État enverrait avec une telle publicité, ça serait aussi un signal important.
C'est surprenant quand même venant d'un parti qui se dit le parti des régions. Ça c'est certain. Les régions, c'est des régions de pick-up.
Mais les régions sont aussi préoccupées par l'environnement. Alors, moi, je veux pas embarquer dans un discours de confrontation ou de polarisation entre la métropole puis les régions. Déjà, là, il faut qu'on s'entende. C'est quoi ça, les régions? Et pour moi là, la région éloignée, c'est Montréal. Donc quand je suis à Jonquière, tu sais, je veux dire, tout est relatif. Alors je veux pas embarquer dans ce débat-là. Moi, je pense que tous les Québécois et toutes les Québécoises sont très très préoccupés par la question des changements climatiques. On l'a vu lors de la grande manifestation en 2019. Là, c'était pas juste du monde de Montréal qui se sont déplacés dans les rues là pour manifester. Les sondages, un sondage après l'autre, démontrent que la population est très très préoccupée par les enjeux
environnementaux.
Ouais.
Est-ce que Québec solidaire est avec vous là-dessus? Parce qu'ils ont déjà dit en novembre dernier qu'ils étaient aussi d'accord avec une certaine interdiction de publicité.
Partez-moi pas là-dessus, parce que j'aimerais ça le savoir, parce que Québec solidaire jusqu'à maintenant n'a pas été très présent en commission parlementaire. Ce qui me pique ou me préoccupe, parce qu'évidemment, on sait que Québec solidaire aime bien se prétendre le parti de l'environnement. Mais tu sais, si je regarde là, à date, là, depuis avant les fêtes qu'on a commencé à étudier le projet de loi 102, ils ont manqué 6 journées complètes de commission parlementaire, ce qui représente 11 blocs de commission qui totalise 24 heures. Donc, tu sais, c'est sûr que là, présentement, là, on est dans un volet du projet de loi qui est un peu moins sexy. Là, c'est tout l'aspect des peines, c'est très, tu sais, les règlements, c'est plus technique, le niveau de peine, comment qu'on procède, par exemple, avec un bureau de réexamen avant d'aller au tribunal administratif. Mais c'est ça le travail parlementaire. Puis ça aussi, c'est très important pour l'environnement. Moi, hier, j'ai eu un gain là, dans un amendement pour faire en sorte que quand un juge prend une décision, fait une ordonnance pour un contrevenant en matière d'environnement, ben qu'il puisse y avoir comme peine de faire comme des travaux communautaires ou des investissements en matière environnementale. Ouais. Donc, par exemple, tu sais, de protéger un cours d'eau, etc. Mais j'ai obtenu ça hier. Pourquoi? Parce que j'étais là. Ben, QS, ils sont absents. Alors, vous leur poserez la question.
Ils sont là aujourd'hui, puis d'après nos informations, ils vont déposer, eux, un amendement qui mettrait en avant le principe du bonus-malus, c'est-à-dire un coefficient de réduction et de majoration pour taxer, justement, les autos et les motos polluantes. Donc, par le truchement des assurances, notamment, il y a plusieurs pays qui le font là aussi, Belgique, France, Grèce, Italie et compagnie. Êtes-vous d'accord avec ce principe?
Ben oui, je l'ai annoncé au Congrès du Parti québécois en décembre
oui,
dernier,
c'est vrai,
que nous étions d'accord avec ça. Moi, j'appelle pas ça bonus-malus. Le vrai terme, là, c'est pas parce que j'aime pas le latin, là, mais le vrai terme, c'est redevance remise. Ça existe déjà, mais de façon très limitée. Alors, il faut aller plus loin là-dedans. Puis nous, on va le proposer. On va voir comment on va l'amener. Mais il va y avoir un paquet de mesures. Vous savez, on a pris une position très forte pour dire, et on s'est collé sur ce que la COP26 a convenu à Glasgow au mois de novembre. On a dit, les prochaines cibles de réduction de gaz à effet de serre du Québec sont de 45% de moins sur la base de 2010. Donc, pour y arriver, pour 2030, sur en objectif de 2030. Donc, pour y arriver, ça va nous prendre des mesures très fortes. C'est pas juste une cible qu'on lance comme ça en l'air. Fait que dans ces mesures-là, dans notre prochaine plateforme électorale, on pourra détailler toutes les mesures qu'on va proposer.
Trouvez-vous ça paradoxal ou hypocrite de la part de la députée solidaire Émilie Giessard-Terrien de conduire un pick-up, puisque... Et c'est un de vos adversaires, Éric Duhaime, là, qui...
Je veux pas embarquer là-dedans parce que je viens de vous dire que moi, je suis pas dans un mode de moralisation ou de jugement. C'est pas ça. La seule chose que je dis, moi, c'est qu'il faut qu'on ait des politiques publiques. Maintenant, tu sais, que chacun ait le véhicule qu'il veut. Peut-être chacun a ses raisons aussi. Moi, je suis pas au courant, là, de la vie de mes collègues, là, de la vie privée de mes collègues ou des emplois, des conjoints, peu importe. Je veux pas embarquer là-dedans. Puis c'est pas ma façon de faire de la politique. Ce que je dis, par exemple, c'est qu'on a un rôle à jouer. Il faut être là où ça se passe. C'est à l'Assemblée nationale. On prend des mesures. Il faut essayer d'être exemplaire le plus possible. Moi, j'ai une auto électrique depuis 2017, entièrement électrique. Je traverse le parc deux fois par semaine avec mon auto. Je fais tout ce qu'il faut au Saguenay puis partout à travers le Québec. Puis je suis en train de regarder pour m'en acheter une autre parce qu'elle a 4 ans et beaucoup de millages. Alors, puis je vais rester dans l'électrique. Alors, j'essaye d'être le plus cohérent possible avec ce que je dis puis ce que je fais. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller maintenant que les autres répondent aux questions qui les concernent.
Indicateur de bien-être maintenant, au-delà du PIB, que voyez-vous, vous, Sylvain Gaudreau?
Hier, moi, je veux saluer là vraiment le G15+, là, qui est un genre de coalition qui regroupe entre autres le Conseil du patronat, des groupes environnementaux, des syndicats et d'autres organisations, des groupes aussi comme la grappe industrielle en économie verte, etc., qui sont tous dans cette coalition, le G15+, et qui ont proposé de mettre un peu de côté ou d'aller au-delà du fameux produit intérieur brut, le PIB, qui est une mesure classique ou traditionnelle, mais qui ne mesure pas totalement l'évolution d'une société. L'évolution d'une société n'est pas qu'en augmentation de la consommation, par exemple, ou de la production dans une année, mais ça va aussi par le maintien d'une population en santé, le maintien de milieux naturels, de tenir compte, par exemple, d'indicateurs en santé publique, etc. Donc, en éducation, réussite scolaire. Donc, le G15+ est arrivé avec une cinquantaine d'indicateurs qui nous permettent justement d'aller au-delà du produit intérieur brut. La Nouvelle-Zélande va dans ce sens-là aussi, déjà. Il y a d'autres pays qui commencent à sortir du dogme, je dirais, du PIB. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Puis je pense que l'Assemblée nationale doit se saisir de ça. Alors, on va voir comment on va le travailler.
Ouais, qu'est-ce qu'on va faire dans nos documents budgétaires qui sont tous basés sur le PIB? Quand on calcule la croissance et même l'augmentation des budgets dans certains secteurs, c'est toujours le PIB.
C'est ça. Tu sais, l'exemple le plus absurde, c'est que l'augmentation de la vente de masques chirurgicaux depuis 2 ans vient augmenter le PIB. Mais je veux dire, c'est pas parce que la population va bien si on a des masques, parce qu'on est dans une période de pandémie. Alors, il faut sortir de cette logique-là qui est basée uniquement sur une augmentation de la production ou de la vente ou d'une balance commerciale positive. La santé, en tous les sens, là, pas juste physique, mais la santé écologique, économique, la santé sociale d'une société se mesure autrement que par une balance là, commerciale. Alors, c'est vers ça qu'il faut aller, puis compter, par exemple, justement, le taux de réussite scolaire, le taux de santé d'une population, l'espérance de vie, les femmes qui intègrent le marché du travail, etc. Puis là, on va avoir un portrait beaucoup plus large de la santé et du bien-être de notre population. Alors, moi, je pense qu'il faut aller vers ça. Puis moi, je vais faire une intervention à l'Assemblée nationale. On vous le dira au moment opportun pour que l'Assemblée nationale, au moins, se saisisse de ça et voir comment on pourrait influencer la présentation d'un budget, la présentation d'états financiers, d'une mise à jour budgétaire sur cette base-là.
Très bien. Merci beaucoup, Sylvain Gaudreau.
Hey, ça me fait plaisir. Et puis, on lâche pas.
Sylvain Gaudreau est député de Jonquière du Parti québécois.
Cube Radio.